Bienvenue au Café des Francophones. Cette semaine, nous restons en Arménie, qui est un pays où il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. Et nous allons parler du Matenadaran. Alors, le Matenadaran veut dire en arménien bibliothèque, mais c'est aussi un institut de recherche sur les manuscrits anciens, et qui est notamment inscrit au registre mémoire du monde de l'UNESCO. Et pour en parler, nous allons discuter avec une philologue qui travaille dans cet institut. Greta Nikogosyan, bonjour.
Bonjour.
Si vous le voulez bien, d'abord, nous sommes passés devant cet institut. C'est quand même un bâtiment assez impressionnant.
Oui, c'est vrai.
Et est-ce que on a une idée de la superficie que représente le Matenadaran?
D'abord, on peut dire que le bâtiment, c'est une œuvre de l'architecte arménien Marc Grégorian et est daté de 1957. Et, un escalier monumental mène à une statue de Mesrop Mashdodz, qui est le créateur de l'alphabet arménien, et de son disciple Koryun, qui est agenouillé et qui précède son entrée. Donc, les côtés du bâtiment sont ornés de Hachkar et d'autres stèles. Et le hall d'entrée est décoré d'une mosaïque de Ovanes Rajadian qui représente la bataille d'Avaraj.
D'accord. Et alors, est-ce qu'on a une idée de la quantité des manuscrits anciens qui sont présents dans cette bibliothèque?
Oui, bien sûr. Le Matenadaran possède une collection de près de 17 000 manuscrits et 30 000 autres documents qui couvrent un large éventail de sujets tels que théologie, philosophie, historiographie, histoire, géographie, histoire de l'art, médecine, etc.
D'accord. Et alors, ces collections sont-elles dans plusieurs langues?
Oui, bien sûr. On peut dire que là, il y a seulement 10 000 manuscrits qui sont en arménien. Mais en plus, là, il y a des manuscrits grecs, latins, arabes, persans, syriaques, hébreux, éthiopiens, etc. Donc là, il y a plus de manuscrits en langues étrangères.
Alors, comment ces manuscrits sont-ils arrivés jusqu'au Matenadaran? Parce que quand on entend des manuscrits éthiopiens, on se demande comment ils sont arrivés jusque-là.
Matenadaran obtient ces manuscrits. Donc, Matenadaran achète parfois maintenant les manuscrits. Et il y a aussi des bénéficiaires qui simplement offrent ces manuscrits à l'Institut. Et en plus, il y a aussi beaucoup de connexions internationales. Et tout ça se passe officiellement, on peut dire, maintenant.
Oui, donc il y a des réseaux et il y a des instituts ou des personnes privées qui peuvent donner, faire acte de donation de manuscrits anciens.
Oui, bien sûr. C'est ça. Oui.
Alors, si j'ai bien compris, il y a trois types d'activités au Matenadaran. Il y a un musée, il y a une bibliothèque et il y a de la recherche. C'est bien cela?
Oui. Oui, c'est ça. Et on peut dire que les principaux objectifs du Matenadaran sont avant tout la préservation, la restauration et la reproduction des manuscrits, leur approvisionnement, en plus l'organisation et le catalogage des manuscrits arméniens, la distribution et la publication des manuscrits arméniens particulièrement significatifs sur le plan historique en langues autres que l'arménien aussi.
Alors, quel type de manuscrit on a qui a une valeur peut-être supérieure à beaucoup d'autres?
Je pense, on peut dire que parmi les collections figurent notamment les traductions arméniennes d'œuvres aujourd'hui perdues d'auteurs antiques. On peut dire ça, comme par exemple la chronique d'Eusèbe de Césarée ou bien sur la nature de Zénon de Sition. Et ensuite, il y a des manuscrits très anciens remontant au 5e et 6e siècle. Les plus anciennes miniatures datent du 6e siècle et le plus ancien manuscrit entier, on peut dire, est daté de 887. Et aussi, on peut dire que Le plus grand manuscrit est l'Homélière de Mouche, daté du XIIIe siècle, et le plus petit est un calendrier daté du XVe siècle.
D'accord, alors le travail consiste finalement à produire et à garder vivante ce patrimoine culturel de l'humanité.
Oui, on peut dire ça, bien sûr.
Et alors, à partir de ce niveau-là, vous avez aussi un musée. Et qu'est-ce qu'on expose dans ce musée?
Les manuscrits, bien sûr, on expose les manuscrits et on peut prendre des tours et il y a des guides spéciaux qui expliquent l'histoire de chaque manuscrit qui est exposé là-bas. Et surtout, on y expose les manuscrits ornementés. J'ai déjà dit qu'il y a presque 10 000 manuscrits arméniens. Bien sûr, tous ces manuscrits ne sont pas exposés, mais il y en a un tiers est ornementé et surtout les manuscrits qui sont très, si on peut dire comme ça, bellement ornementés sont exposés au musée.
D'accord. Et donc, dans cet ensemble, finalement, le Matin d'Aran est une espèce de, est au milieu de tout un ensemble de réseaux, si je comprends bien.
Oui, vous avez raison. Ah. C'est ça. Mais on peut dire aussi que le Matin d'Aran, commençant de 1941, le Matin d'Aran commencé à publier son périodique officiel, Pambel Matena Darani, où on peut publier plusieurs articles scientifiques concernant les différents sujets médiévaux de l'Arménie. Les articles dans ce périodique sont accompagnés de résumés en russe et en français aussi. Donc si on veut lire quelque chose concernant les arts ou bien des autres branches scientifiques, on peut bien sûr prendre cette périodique.
Donc c'est pas une lecture qui est fermée seulement aux seuls Arméniens, enfin en tout cas ceux qui
non,
parlent l'arménien. Alors la question qu'on se pose, Greta, c'est que l'Arménie est quand même une société post-soviétique et on
oui.
sait que sous l'Empire soviétique, la culture était quand même assez cadenassée par le pouvoir. Et quel était le lien finalement qu'il y a eu entre les soviétiques et puis le Matin d'Aran? Quelle était la vie quotidienne dans cet institut?
On peut commencer du fait que Matin d'Aran est devenu institut à l'époque soviétique. Parce qu'en 1931, la collection des manuscrits était transférée d'Echmiadzin à Erevan et conservée dans la Bibliothèque nationale. Et enfin, le 3 mars 1959, le Conseil des ministres de la République soviétique d'Arménie a voté en faveur de la création d'un dépôt destiné à conserver et abriter ces manuscrits dans un nouveau bâtiment. Et donc, en ce temps, l'académicien arménien très très connu, Levon Hadjikian, a été nommé directeur du Matan d'Aran. On peut dire que le Matan d'Aran a été développé à l'époque soviétique. On peut dire que les ressources soviétiques ont vraiment aidé au développement du Matan d'Aran.
Alors c'est assez paradoxal quand même parce que
oui.
on s'attendrait au contraire. Mais est-ce que vous avez une idée des motivations derrière la fondation du Matan d'Aran?
Oui, bien sûr, la motivation était la préservation des manuscrits qui ont une place très très importante dans la culture arménienne. Mais je pense que le fait que Matan d'Aran a été développé à l'époque soviétique dépendait de cette personne particulièrement, de Levon Hadjikian, qui avait des connexions très très importantes et qui avait la possibilité d'utiliser ces connexions pour que Matan d'Aran devienne une place culturelle, si on peut dire comme ça.
D'accord, eh bien, merci beaucoup Greta Nikogosyan pour cet éclairage sur cet endroit que nous invitons nos auditeurs à visiter avec beaucoup de bonnes impressions.
Merci Antoine, merci à vous et merci pour présenter l'Arménie et cet institut qui est très très important pour les Arméniens aussi.